quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Si tu plonges longuement ton regard dans l'abîme, l'abîme finit par ancrer son regard en toi. C'est ce qu'affirmait un certain Friedrich Nietzsche en son temps. Le regard, ne dit-on pas encore que les yeux sont le miroir de l'âme? Alors voilà, à l'heure où l'on entend parler agression, stress, violence dans nos villes, et si on travaillait notre regard, tout simplement pour mieux se défendre dans la vie et surtout dans la rue? Réponse dans cette émission en quête de sens, du moins je l'espère, au bout de ces 52 minutes avec nos deux invités du jour. Et j'ai la grande joie d'accueillir Laurent Maury. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Vous êtes directeur sûreté pour un groupe français du CAC 40. Vous êtes inspiré des épreuves de votre vie pour écrire cet ouvrage. Prenez le pouvoir, toutes les stratégies pour agir comme un négociateur d'élite, rien que cela. Aux éditions Michel Lafon, merci d'être ici. Et enfin, Richard Escott, bonjour Richard. Votre pronom de famille, j'ai toujours du mal à retenir. Est-ce qu'il faut dire le T?
Alors, ça dépend où on se situe. Langdoy, Langdoc. Moi, j'adore Escott parce Escott, que dans le monde du rugby, c'est comme ça.
Ah, c'est beau. Moi, je préfère Escott, personnellement. Un petit côté sud-ouest. Journaliste sportif au journal L'Équipe que vous êtes, auteur de nombreux ouvrages sur le rugby. Le dernier Côté ouvert 2016-2023, chronique d'un sacre reporté aux éditions Passiflore. Et puis, ce dictionnaire des penseurs qui peut nous aider fortement aujourd'hui, qui ont travaillé aussi sur cette histoire du regard intérieur-extérieur, aux éditions Honoré Champion. C'est drôle parce que j'ouvre votre livre. Par hasard, boum, je tombe sur Nicolas Machiavel.
Ah, il n'y a jamais de hasard.
Par la ruse et la force, exactement. Comment parvenir au pouvoir, puis y maintenir?
Quel lien avec l'ouvrage de Laurent avec nous?
Prenez le pouvoir, nous répond Laurent Maury. J'ai l'impression de faire une revue de presse.
Il n'y a jamais de hasard.
Ex-chef négociateur du RAID, hein, quand même, hein, attention. Effectivement, le regard, c'est vrai qu'on a... Est-ce que ce sujet vous avez d'abord un peu surpris tous les deux, Laurent Maury? Le regard, c'est très important. Est-ce qu'on le sous-estime? Aujourd'hui, on ne se regarde plus, on regarde nos écrans. On baisse la tête dans la rue aussi. Hein.
Oui, oui, effectivement. Alors, c'est une question très intéressante parce que l'ouvrage que j'ai écrit, le début de cet ouvrage, j'aborde le regard.
Absolument.
Qui est le reflet de l'âme. Ouais. Donc, vous l'avez précisé.
Bah, j'ai copié.
Je suis l'ancien chef des négociateurs du RAID et effectivement, vous avez l'occasion de voir le regard de l'autre. Qui est ce reflet de l'âme, donc c'est effectivement très important.
Ouais. Richard, vous en faites quoi du regard, vous?
Mais moi, écoutez, quand on est arrivé, Laurent et moi, on ne se connaissait pas, et je crois qu'on s'est regardé tout de suite, et à travers le regard, on n'avait pas lancé la poignée de main, que je pense qu'on savait déjà à peu près qui on était, et on s'est trouvé déjà plein de copains communs, donc oui.
Le monde irait mieux, nos relations, on aurait moins peur, parce que le chapitre 4, Surmontez vos peurs, Laurent Maury, peur de tout, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de la critique, peur du rejet, peur de la solitude, peur de la maladie, peur, la peur, dites-vous, s'invite partout dans notre société, peut-être parce qu'on n'utilise pas nos cinq sens, on le dit souvent dans cette émission, on l'entend souvent, à commencer par le regard, on l'utilise mal, on n'utilise pas notre regard, pas assez peut-être, pour commencer,
oui.
Au fond, question.
Alors le regard, effectivement, c'est... Il y a toute une posture à avoir. C'est-à-dire que le regard, ça traduit aussi vos intentions.
Ouais.
Et on ne ment pas. On ne ment pas. Et alors, c'est très curieux parce que justement, quelqu'un qui va vous mentir, généralement, il dit, je vous le dis, droit dans les yeux.
C'est très simple. On l'a entendu,
On l'entend souvent. Méfiez-vous de quelqu'un qui vous dit, je vous le dis droit dans les yeux. Si je peux vous donner un conseil, méfiez-vous de quelqu'un parce que justement, le menteur, en vous regardant précisément dans les yeux, va s'assurer... Il va regarder un peu comment votre message est perçu. Donc, il va s'assurer que le message, le mensonge est bien perçu, en vous regardant droit dans les yeux.
Donc, c'est impossible à déceler, si je comprends bien, le menteur.
Alors, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'ouvrages sur la détection du mensonge. Évidemment, si on avait la formule pour détecter le mensonge, on le saurait depuis longtemps. Ouais. Et puis l'auteur, celui qui a découvert, serait immensément riche. Mais évidemment que c'est très compliqué. Ouais. La détection du mensonge, c'est un sujet qui revient souvent, mais c'est extrêmement difficile de détecter le mensonge. On peut avoir des éléments d'appréciation. En revanche, la détection, il faut savoir que depuis la nuit des temps, les Chinois mettaient de la pâte de riz dans la bouche des gens qui soupçonnaient de mentir, ils leur demandaient de recracher. Puisqu'on a la bouche sèche. Et au Moyen-Âge, on le faisait aussi avec de la farine. On posait des questions si on recrachait. Et si la farine était encore sèche, on pouvait considérer qu'on était face à un menteur. Enfin, il y a plein de choses avec la programmation neurolinguistique aussi sur la détection du mensonge.
Ouais. Alors là, c'est marrant parce qu'on va bientôt consacrer une émission justement au parler vrai. Donc vous voyez, c'est un sujet d'actualité finalement que vous êtes en train d'évoquer. En tout cas, de notre actualité d'enquête de sens. Mais là, revenons à notre regard, Richard Esco. Est-ce que justement le fait de est-ce qu'on peut par exemple diriger un regard, le maîtriser son regard plus qu'on l'imagine? Est-ce que vous croyez que ça se travaille le regard au fond?
Alors ça se travaille, mais pour rebondir sur ce que disait Laurent, le regard peut tricher. C'est un très beau tricheur. C'est peut-être même le meilleur tricheur. Là, je reviens d'un voyage en Nouvelle-Zélande et j'ai la chance d'être intégré dans le but maori. Oui, parce que j'étais en Inde, mais avant j'étais en Nouvelle-Zélande. Et cette tribu maori, son chef me disait, quand nous les sages, nous voulons écouter quelqu'un, quand il y a un dilemme, quand il y a un problème à régler entre deux personnes ou plusieurs, on ferme les yeux et on écoute le timbre de la voix.
Wow.
Et la voix triche moins que le regard. Et donc, vous imaginez ces sages réunis dans une pièce très particulière au sein du village, et ils écoutent. Et ils écoutent l'émotion, et ils écoutent les vibrations davantage que le regard, parce qu'ils disent le regard est trompeur. Et moi qui suis musicien, quand j'écoute des œuvres profondes, je ferme les yeux.
Ouais.
Et quand j'écoute des orateurs, je ferme les yeux. On m'a dit, tu dors? Non, je ne dors pas. Je ne dors pas parce que je ne veux pas que mon regard... Je pourrais faire l'émission, par exemple, là, les yeux fermés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes à la radio et nos auditeurs nous écoutent.
Ouais.
Et c'est à travers ce que l'on dit que passe le message et pas à travers le regard qu'on lançait. Parce que, comme le disait très justement Laurent, le regard est porteur de tout un tas d'intentions.
Et j'imagine que l'infraverbal a nourri de nombreuses négociations.
Oui, effectivement.
De votre part.
L'étude comportementale, le verbal, le paraverbal, faut que les paroles soient congruentes avec l'attitude. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous dire des choses très positives en étant avec un visage fermé, les bras croisés. On va interpréter le message différemment. Donc il faut que ce soit congruent entre le verbal, le paraverbal. Alors on entend parfois dire que le sens des mots, ça représente 5% à peu près. On prend à peu près 5%. Ça.
C'est dingue.
Mais très honnêtement, je suis pas convaincu de ce chiffre. En revanche, l'attitude.
D'accord.
Les mots, l'attitude, tout ça doit être congruent.
Venons-en au fait. Donc, dans la rue, par exemple, mais quand on se sent agressé aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu le mal du siècle, enfin, l'un des mots du siècle, où on se sent très facilement agressé au boulot, en famille, et puis dans la rue, effectivement, il y a des attitudes à ne pas adopter et des regards à ne pas diriger. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on fait avec son regard quand on se sent agressé en général? Est-ce qu'il y a une règle d'abord pour commencer?
C'est une règle d'apaisement qu'on retrouve en négociation. C'est-à-dire que là, en fait, moi j'aime bien parler de curseur, c'est-à-dire pour être connecté à l'autre.
Ouais.
En fait, ce qui va créer de la tension, c'est le fait de ne pas être connecté, d'avoir des messages qui sont mal interprétés, des regards qui sont mal interprétés. Donc, et là, je vais peut-être davantage vous parler de la voix, parce que la voix, c'est vraiment important. Et vous avez évoqué l'écoute. Un bon négociateur, c'est quelqu'un qui sait écouter. Le slogan du premier groupe d'intervention, de négociation qui a été créé à New York, c'est « Listen to me ». Je t'écoute.
Ouais.
Je t'écoute.
D'ailleurs, on a deux oreilles. Hein.
Ouais. Donc, c'est l'écoute. Et donc, je reviens sur cette histoire de curseur. En fait, il s'agit pour nous de mettre au même niveau ces curseurs. C'est-à-dire, face à quelqu'un qui va vous parler de façon très agressive, avec un volume sonore important, vous exagérez en parlant de façon... lente, doucement, pour ramener ce curseur. Bon, vos auditeurs ne vont pas voir les gestes que je suis en train de faire, mais voilà, on est en train
Ils les devinent.
C'est ça qu'ils nous voient sur YouTube. Mais
probablement.
Ils les devinent, en tout cas.
Ils les devinent probablement, donc il faut ramener ce niveau.
Et, alors, si on peut être tenté de prime abord, justement, d'aller encore
non,
plus fort.
Non, là, vous allez attiser la tension. Et justement, il faut parler de façon très, très douce.
Chers auditeurs, vous savez que quand on... lance un regard vers quelqu'un, en fait, on entre dans sa zone et sa bulle. On parle de la rue. Moi, je reviens sur la rue, c'était très intéressant. Ouais. Je réfléchissais à ça en amont, le thème est passionnant. Quand vous fixez du regard quelqu'un, vous entrez dans sa bulle. Les gens n'ont pas obligatoirement envie qu'on entre dans leur bulle, qu'on entre dans leur univers, qu'on entre dans leur monde. On les fixe, on les regarde et on parle d'agression. Je ne pense pas. C'est une entrée intrusive. Voilà, je dirais plutôt une intrusion plutôt qu'une agression. Et donc, il y a plein de gens dans la rue qu'on croise du regard et on sent bien qu'on n'aurait pas dû.
Oui, on n'aurait
pas
ça.
Dû parce qu'ils sont dans leur univers.
Ouais.
Et alors moi, par exemple, ça ne me gêne pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça gêne. Parce qu'ils ont l'impression d'être auscultés, d'être toisés, comme on disait, de haut en bas, de bas en haut, toisés. Et ça leur donne parfois le sentiment que vous êtes en train de les juger. Et c'est souvent les gens qui se sentent le plus mal qui fonctionnent comme ça. Quand on est bien dans sa peau, on peut être regardé, on peut être toisé, ça pose aucun problème. Et donc c'est là où on s'aperçoit que chez nos contemporains, beaucoup de gens sont mal dans leur peau. Et les regarder, c'est presque entrer chez eux alors qu'on n'y est pas invité. Moi, j'arrive d'Inde.
Ouais.
Je vous le disais. Et en Inde, vous regardez quelqu'un, et que ce soit une femme, un enfant, n'importe quel âge, n'importe quelle caste, etc., il fixe votre regard et c'est au premier qui sourit.
Waouh !
Et à partir du moment où vous souriez, vous savez, je vous en parle, j'ai la chair de poule parce que je suis arrivé il y a 2 jours, vous souriez et on vous sourit.
Waouh !
Et vous ne souriez pas, on vous sourit pas. On attend de savoir quelles sont vos intentions. Et en fait, c'est comme avec les nouveau-nés. Dès que vous souriez à un nouveau-né, il vous sourit. Et la première communication passe par le visage.
Alors qu'au Japon, on n'a pas le droit de se regarder, je crois, dans la rue.
Alors, j'ai eu la chance de travailler un peu en Asie.
Ouais.
Déjà, culturellement, en fonction des pays d'Asie, on a de grandes différences. Et c'est vrai que c'est très codifié.
Ouais.
Le Japon, c'est très, très codifié. Et on est parfois un peu désemparé par rapport à ces codes culturels qu'on ne maîtrise pas.
La hiérarchie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fonction de la hiérarchie sociale qu'on imagine ou qu'on est, on ne regarde pas, on reste en bas et on ne regarde jamais celui dont on pense qu'il est le supérieur social, hiérarchique, professionnel. Ouais.
Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quand on célèbre un événement ou qu'on est autour d'une table, vous savez qu'on trinque. Et en fonction du rang qu'on vous accorde, on va positionner le verre dessus ou dessous.
Waouh. Ouais.
Donc, c'est une marque de respect.
Ouais.
Donc, avec votre nom, avec le san. Et donc, on va mettre le verre en dessous pour vous montrer qu'on vous accorde du respect.
Alors là, je fais une parenthèse vers votre livre, mais c'est vrai que... avant de pouvoir négocier ou demander ou échanger avec quelqu'un dont on veut obtenir quelque chose, puisque c'est dont il est question dans votre livre, il faut connaître les codes la famille, la société, j'en sais rien, le pays d'origine de la personne. C'est essentiel quand on entend cet exemple, par exemple.
Oui, alors je vais revenir comme sur mon activité en tant que policier. Généralement, une négociation, on est face à quelqu'un qui est en crise. Je vais reprendre l'exemple d'une négociation, par exemple, une des négociations que j'ai pu mener au RAID. Lorsque vous arrivez, vous êtes face à quelqu'un qui est en crise. Vous avez un officier de renseignement dont le job est d'arriver en qualité de précurseur et de vous alimenter en information pour vous permettre d'établir un profil psychologique de la personne avec laquelle vous allez échanger. Culturellement, j'ai pas eu l'occasion de négocier face à des personnes qui étaient de cultures différentes, en tout cas...
Pas à ce point-là.
Donc, c'est connaître la personne, établir un profil psychologique pour pouvoir engager une négociation avec lui, élaborer une stratégie.
Et c'est pas forcément si simple que ça, parce qu'il faut à la fois ne pas froisser trop... Enfin, il faut trouver un équilibre qui est quand même un art, en fait.
Alors,
Vous avez travaillé.
En fait, moi, j'articule... Alors, je l'ai articulé au sein de ce livre en 3 parties. Vous êtes 100% responsable de 50% de la relation globale. Alors, ce n'est pas de moi, mais je pense que ça illustre bien le propos. Vous êtes 100% responsable, finalement, que de 50% de votre relation avec votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous allez articuler votre relation à l'autre sous 3 aspects. Le premier, c'est comment techniquement je vais être performant. Le deuxième, c'est quelle personne je suis. Donc, c'est comment je fais, qui je suis. Et le troisième point, qui est un point important, c'est comment faire avec. Et avec, c'est avec l'autre. C'est je suis bon techniquement, je suis performant, je suis une personne agréable, voilà, j'ai de bonnes valeurs, et en revanche, je vais me confronter à l'autre.
Vous dites qu'il ne faut jamais vouloir visualiser tout de suite son objectif. Ça se fait pendant... Enfin, c'est pour ça que c'est une prise de risque énorme, en fait, de négocier. Enfin, il faut se mettre dans la... Dans la, dans la comment peut-on dire, il ne faut pas imaginer que c'est, il ne faut pas y aller avec un objectif, en fait. C'est ça,
alors,
c'est
compliqué. Alors, alors, la négociation, il faut partir avec ce que j'appelle, moi, un bénéfice commun partagé. C'est-à-dire que la négociation, c'est pas, j'aime pas trop le terme gagnant-gagnant.
Ouais.
Parce que, in fine, soit vous considérez que vous êtes effectivement le gagnant, ou vous avez perdu. La négociation, c'est donnant-donnant.
Ouais.
Donc, il faut partir d'une volonté de convaincre. Il faut éviter la volonté de convaincre pour aller sur une volonté de comprendre l'autre. Mmh. Et à partir du moment où on va comprendre l'autre, ses objectifs, on va s'adapter. C'est-à-dire que lorsqu'on va élaborer un plan, une stratégie, il faut faire preuve de flexibilité.
Et ça, ça peut servir dans la rue, Richard. C'est très intéressant, je trouve, cette nuance.
Alors, je ne sais pas si ça peut servir dans la rue, parce que là, dans peut-être. Ce qu'on vient d'entendre, ouais. On est dans un objectif quand même très clair et affiché. Quand on est dans la rue, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a envie de rentrer en contact avec tout le monde ? Et est-ce que tout le monde a envie d'entrer en contact avec vous ? Et vous savez, quand on part, alors, la rue, il faut faire attention à ce qu'on évoque avec la rue, parce que les rues, elles sont multiples selon l'endroit où on se trouve. Prenons Paris-Province.
Ouais.
Il y a quelques temps de ça, je me retrouve en Bretagne, à l'entrée d'un supermarché, et là, tout le monde, mon épouse et moi, tout le monde nous dit bonjour. Et en tant que Parisien, je suis pas habitué. Moi, quand je dis bonjour, on me regarde bizarrement en disant « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Ah, juste vous dire bonjour. Oui, mais je vous connais pas. Oui, mais c'est pas grave, je vous croise. Oui, mais enfin, me croiser, ça vous donne pas la possibilité. J'ai pas envie d'entrer en contact avec vous. Alors que là, je me suis retrouvé avec des gens qui se retournaient. Bonjour. Alors, ils disparaissent aussi vite, mais ils disent bonjour. Et on a été surpris. Et je crois que peut-être que nous, alors forcément, cette radio est située au cœur de cette belle ville de Paris, hein. Et je pense que nous, Parisiens, on a un déficit d'ouverture, de bienveillance, comme ça. Alors, je ne dis pas de sympathie, ni d'empathie, mais juste de politesse. Et je crois qu'on a oublié cette politesse-là. Juste oui. De dire merci, bonjour, au revoir, vous entrez dans une boutique. Moi, je dis bonjour. Personne ne répond.
Ouais.
Et donc, avant de poser le regard, ou avant de réfléchir, ou de se dire qu'est-ce que mon regard veut dire, comment dois-je le modifier, il y a juste cette politesse qui pour moi, doit être le premier pas qu'on fait l'un vers l'autre. C'est pas s'engager que d'être poli. C'est juste de dire, tiens, je reconnais que quelqu'un que je ne connais pas vient d'entrer dans le petit univers visuel qui est le mien. Bien, bonjour monsieur, au revoir madame. Enfin, rien de grave. Donc à partir de là, forcément, si on n'a pas ce présupposé, ce préalable, ce préfixe, c'est compliqué hein, pour le reste de la phrase.
Est-ce que ça peut suffire à désamorcer une agression ? On va voir ça après cette petite parenthèse musicale, si vous le permettez, messieurs. Faut qu'on s'aime, Ismaël Lowe, à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Faut plus mentir, jouer des scènes. La seule réponse à tous nos problèmes, faut qu'on s'aime. Toutes nos histoires, où ça nous mène? Des cris, des larmes, c'est tout ce qu'on s'aime. C'est le moment de changer de rengaine, faut qu'on s'aime. We'll be right back.
voilà de retour dans cette émission Quête de sens. Et si on travaillait un peu mieux notre regard, notre façon d'être aussi, pour mieux se défendre dans la rue et ailleurs, Laurent Maury est avec nous, qui est un ancien négociateur, ancien chef des négociateurs du RAID. Il a des choses à nous apprendre. Prenez le pouvoir, c'est son ouvrage publié aux éditions Michel Lafon, toutes les stratégies pour agir comme un négociateur d'élite et aussi pour apprendre, pourquoi pas, à faire face à tout type d'agression, y compris au boulot, ça peut servir aussi. Et Richard Escott est avec nous, journaliste sportif au journal L'Équipe, qui a écrit nombreux ouvrages sur le rugby et qui philosophe maintenant, Direct Dictionnaire des penseurs, c'est son nouveau bébé aux éditions Honoré Champion. Richard Escott, effectivement, on parlait là en off entre nous de façon d'être, et effectivement, on renvoie sans manifester, sans dire quelque chose forcément. On renvoie un message à l'agresseur éventuellement, dans la rue ou ailleurs.
Absolument. Hein, vous parliez de mon approche, mon amour pour la philosophie. Hein. La racine étymologique, c'est rechercher la sagesse. Et donc, je pense que dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos mouvements, l'absence de brusquerie, la pensée, ouais, la pensée bienveillante. Moi, je crois qu'on voit à travers les gens. Et on voit en eux des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont agréables, voilà. Et si on transmet ça, on a déjà fait la moitié du boulot, parce qu'on n'est pas, gardien de notre interlocuteur, on n'est pas gardien de celui qui est en face, il est comme il est, voilà, il appartient pas à notre pièce de théâtre, on n'est pas là pour lui dire comporte-toi comme ci, comme ça, il faut le prendre tel qu'il est. Mais si déjà soi, on dégage du calme, de la bienveillance, de la gentillesse, de quelque chose qui va être ressenti, moi je crois beaucoup aux vibrations, ouais, on désamorce. Parce que toute l'idée, c'est de désamorcer face à des gens qui, et je vous le disais dans l'entre-émission, là, qui ont un déficit.
Un déficit de quoi ?
Un déficit de gentillesse, un déficit d'amour, un déficit de
reconnaissance,
de lien à l'autre, un déficit d'altruisme, parce que voilà. Et ça se sent tout de suite. Ce sont des gens qui sont hyper tendus. Enfin, je sais que Laurent a dû en rencontrer beaucoup. Ce sont des gens qui sont hyper tendus, des gens qui ont l'impression d'être incompris. Et on le voit dans la rue. Moi, je les vois, ces gens-là, je les sens. Et ils sont entourés, justement, d'une absence d'aura. On les voit noirs, on les voit sombres, on voit leur regard descendant, en fait. Et moi, je me sens bien avec les gens qui ont des regards lumière ascendants. Et c'est ce regard descendant, on en revient à cette idée. Essayez, pour celui qui est dans la rue, c'est essayer de capter de quel regard l'autre est porteur. Ouais. Et je pense que ça peut beaucoup aider.
Et peut-être, oui, on parlait de Philippines en off, là, par exemple, ces jeunes filles, jeunes femmes qui sont agressées dans la rue tout bêtement, qui ont peut-être envie de savoir aujourd'hui s'il faut regarder dans les yeux. Il y a deux écoles, il y a des gens qui vous disent non, il faut regarder dans la rue, le soir, dans les rues sombres, il faut regarder dans les yeux. Donc, surtout pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des conseils à donner ou pas, l'un et l'autre?
C'est compliqué, c'est compliqué de donner ce genre de conseils. Honnêtement, hein, c'est très compliqué. Je pense que il faut être dans une attitude où on montre sa confiance en soi.
D'accord.
Et on l'a pas évoqué, mais aussi tout ce qui est biais cognitif. C'est-à-dire que votre attitude, elle va être dictée aussi par des biais qui sont des biais cognitifs, qui sont des raccourcis que fait le cerveau pour adopter telle ou telle attitude, pour avoir tel ressenti par rapport à quelqu'un. Donc, il faut surtout la confiance en soi, il me semble. Au-delà du regard qui est important, hein, il faut pas jeter un regard défiant, mais il faut surtout exprimer, montrer sa confiance en soi, avoir les pieds bien ancrés dans le sol, et puis montrer qu'on est là, voilà. Ne pas se présenter comme une victime, c'est-à-dire que vous parliez du regard descendant, je veux dire, ça c'est moi ce que c'est une attitude qu'on appelle en négociation une posture basse ou haute. Si vous êtes face à un interlocuteur qui est en plus qui s'inscrit comme un prédateur, si vous vous mettez avec une posture basse, vous allez être une victime.
D'accord. Prédateur, le mot est
prédateur,
excellent.
On n'a même pas parlé encore
une
du prédateur.
Une de mes filles est au Costa Rica. Ouais. Et au Costa Rica, dans le village où elle est, à Tortuguero, sur la grande plage où vont pondre toutes les tortues des Caraïbes chaque année, il y a des jaguars qui viennent de la forêt protégée. Donc ils traversent le village, ils viennent manger des chiens, hein, voilà, c'est leur course au supermarché. Et elle s'est trouvée quelques reprises devant un jaguar, en pleine nuit. Alors ça, comme prédateur, là on parle de l'être humain, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien justement se grandir. C'est très juste ce que vous dites, Laurent. Il faut se grandir et donner l'impression au jaguar qu'on est plus grand que lui. Si on recule en se rapetissant, si on se retourne en partant, en courant, le jaguar attaque. Si vous restez devant lui, sans avancer, mais en grandissant et en levant les mains, il a l'impression, bah oui, parce que il a l'impression qu'il a en face de lui une bête qu'il a, avec laquelle il a rien en commun. Et donc il se dit, oula, je n'y vais pas, il n'est pas plus courageux que les autres. Les agresseurs ne sont pas les plus courageux, hein, d'ailleurs.
Non. Ah, c'est intéressant de prendre conscience, n'empêche, voilà. Ça peut être évident.
Se lever, grandir, et ça fait mais complètement sens à ce que vous venez de dire, ouais, c'est-à-dire se redresser, regard ascendant, confiance en soi, et dire, voilà, je traverse. Après, quand on se retrouve en pleine nuit, dans des endroits dont on sait qu'ils ne sont pas obligatoirement bien éclairés ni bien famés, bon, il faut quand même regarder un peu son environnement. Moi, je crois que la connaissance de l'environnement est primordiale.
Voilà. Et là, ne pas accélérer. Parce que souvent, on est tenté d'accélérer quand on se sent agressé. On marche plus vite. En fait, il ne faut surtout pas faire ça, j'imagine.
Oui,
du coup,
bah oui, vous donnez un message.
Là,
oui, absolument.
Le jaguar. Ouais. Comme le jaguar. Si vous accélérez, vous retournez, vous partez, vous faites agresser. En trois bonds, il est sur vous, il vous a déchiqueté. Si vous restez, vous levez les bras et que vous grondez un peu, comme ça, hop, il recule. Moi, j'ai des vidéos, c'est assez étonnant que m'a envoyé ma fille, c'est assez étonnant. Hein. Le jaguar, hop, recule et il s'en va.
Ouais. En tout cas, face au plus grand des prédateurs, c'est-à-dire l'être humain.
Merci Laurent Maury.
Non, mais,
pas tort.
Non, mais le plus grand des prédateurs est l'être humain. Je veux dire, un être humain, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à massacrer ses congénères. Malheureusement, j'ai vu à plusieurs reprises.
Et la planète.
Non, mais c'est intéressant, effectivement.
Non, mais c'est la vision qui est issue de 30 années passées dans ce milieu-là. Donc, l'homme, l'être humain, par définition, n'est pas forcément bon.
Ouais. Pas toujours, il a des facettes.
Pas toujours. Ouais. Et pour moi, c'est le plus grand des prédateurs.
Ouais.
Et montrer la confiance qu'on a en soi, ça, c'est un message important.
Ouais.
Vous allez montrer que vous êtes, que vous pouvez vous opposer. Alors, je ne parle pas d'une opposition physique, pas forcément, mais en tout cas, vous êtes face à quelqu'un. Encore une fois, j'insiste sur ce point, les pieds bien ancrés au sol.
Ça se travaille, rapprochez-vous de votre micro, Laurent Maury, ça se travaille, ça, quand on est quelqu'un de très timide, voilà, une petite jeune fille, ou un jeune homme, ça se travaille, ça se muscle, ça, cette espèce de... Vous voyez, même quand on est de nature, parce que vous parlez du tempérament, je crois, à un moment donné, de la personnalité dans votre ouvrage, ça se travaille, on n'est pas forcément tous sûrs de nous, il y a des gens plus réservés que d'autres, etc.
Alors, effectivement, ça se travaille. Moi, j'ai l'exemple d'un ami qui est un avocat assez connu, qui est un ancien timide. Et aujourd'hui, quand vous le voyez, il a une voix de mentor. Et c'est quelqu'un qui, en public, rayonne.
Ouais.
Il est, voilà, quand il arrive dans une pièce, on voit, il y a la lumière. Et dans le privé, c'est quelqu'un de très effacé, plutôt timide, et on l'imagine très bien comme ayant été un enfant très timide. Ce qu'il a été.
Vous dites d'ailleurs, je crois que c'est un masque. Vous dites que, en fait, la personnalité
n'est qu'un masque. Mais oui, chacun d'entre nous met son masque. On a trois masques. On a le masque social, c'est-à-dire le masque qu'on met tous les jours en partant au travail et qu'on va montrer pendant sa journée de travail auprès de ses collègues. Ensuite, on a le masque privé, le masque lorsque vous rentrez chez vous et que vous retrouvez les vôtres. Et puis, on a un troisième masque qui est le masque secret.
C'est quoi ça?
Ça ne concerne que vous et votre âme. Pour certains d'entre nous, la noirceur de leur âme, c'est le masque secret. C'est les choses qu'on n'ose pas dire à nos proches. Et on a tous nos propres secrets, on a tous nos propres angoisses, on a tous nos propres démons.
Ouais.
Alors moi, je crois...
Richard,
permettez-moi, Laurent, moi je ne crois pas à l'idée de masque. Alors je vois bien l'analogie, elle est parlante, mais qu'est-ce qu'on fait du vrai moi? Parce que le vrai moi, il n'a pas besoin de masque. Je crois qu'on est polymorphe, moi, plutôt.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
qu'on se modifie pour survivre dans les environnements qui sont les nôtres.
Ouais.
C'est-à-dire que l'environnement le plus intense, c'est celui où on est tout seul, c'est celui dont vous parliez, où on est avec soi-même. Et là, ce n'est pas un masque, hein, c'est juste cet environnement, souvent la nuit, quand on réfléchit, quand on est en introspection. Moi, personnellement, c'est un bon cigare aux lèvres avec un bon verre de whisky ou de rhum. C'est ma petite heure comme ça, personnelle, où je suis avec moi-même. Et le reste du temps, on s'adapte. On s'adapte dans ce studio, on s'adapte au sourire magnifique que vous avez. Je m'adapte à mon interlocuteur que je ne connais pas, mais j'ai l'impression de connaître, parce qu'on partage finalement presque le même maillot. On est dans la même équipe, on s'est jamais vu, mais on pourrait jouer ensemble. Enfin, voilà, au rugby ou à autre chose. Donc, voilà, je pense que c'est nos environnements qui font que... Il y a des gens qui ne sont pas polymorphes. Et ce qui crée...
Il y a des gens qui ne sont pas polymorphes.
Mais oui, parce que c'est ceux-là qui ont le déficit. Ils ne peuvent pas s'adapter.
C'est bon, je vous rejoins. Je vous rejoins.
Dire, Laurent, ah, bah, c'est intéressant.
Non, mais je vous rejoins. En fait, c'est une forme d'intelligence. Moi, je parle de masque, on peut parler de moments dans la journée. Enfin, on peut l'illustrer de différentes façons, de modifications. Voilà. Mais oui, ce déficit, c'est probablement des gens qui sont pas en capacité de s'adapter. C'est une difficulté à s'adapter.
Vous dites que les pires pour la négociation, c'est les psychopathes, je crois. C'est ça que vous dites dans votre livre.
Alors,
parce que ceux-là, vous les identifiez très vite, finalement.
Ouais,
c'est pas ce que vous dites, hein, dans votre livre.
Les vicieux polymorphes qui sont.
Non, alors effectivement, quand vous engagez une négociation, rapidement on détermine un profil psychologique et on peut se retrouver face à des individus qui ont des traits de personnalité. Je parle pas de maladie mentale, hein, je parle de traits de personnalité. Et là encore, je reviens sur mes histoires de curseurs. Oui. On est tous un peu pervers, on est tous un peu menteurs,
un peu
dans des proportions acceptables. Ouais. En revanche, à partir du moment où vous augmentez le curseur, là vous pouvez développer des traits de personnalité caractéristiques de nature psychopathique, paranoïaque, voilà. Et là, vous allez avoir, pour certains, avec certaines pathologies ou des traits de personnalité très exacerbés, des déficits.
Ouais. Vous avez déjà eu peur ou pas ? Pardon, Richard. Oui. Vous avez déjà eu peur, Laurent, ou pas ?
En intervention ?
Ouais.
C'est une question intéressante, la peur. Est-ce que j'ai eu peur pendant l'intervention ? Jamais. Alors quand je vous dis ça, je suis pas du tout arrogant, c'est pas du tout de l'arrogance de ma part, c'est que je pouvais pas me permettre d'avoir peur. Quand j'entends parfois certains anciens camarades qui disent « j'ai pensé à ma mère, à ma femme, à ma fiancée, à mes enfants », très honnêtement, moi, je n'ai jamais pensé à mes proches. Tout simplement, c'est parce que je n'avais pas le temps. D'accord. Et je savais que ça allait m'impacter de façon opérationnelle si, émotionnellement, je me mettais cette pression en plus. Absolument. Donc, ça ne veut pas dire que j'étais inconscient. J'avais conscience de m'engager dans une action risquée. Mais j'éliminais le temps de l'opération, la peur. Si cette peur vous envahit, elle va vous déstabiliser, elle va vous impacter. Et donc, opérationnellement, vous allez être moins efficace.
Intéressant, Richard.
On a ça chez les militaires, chez les sportifs, les boxeurs, les rugbymen.
Les légionnaires.
La peur existe, mais il y a un moment où on ferme la porte, quoi. C'est-à-dire, sinon, on fait autre chose. Voilà, c'est pas grave, on peut avoir peur. Et moi, je voulais rebondir sur le dictionnaire des penseurs, et en parlant justement de nos névroses et nos psychos, je reviens un petit peu en arrière sur ce que vous disiez. Oui, on est tous un petit peu tout ça, on est tous névrosés. C'est-à-dire que nos névroses nous constituent. Il faut les accepter, il faut les connaître, il faut les voir, ce que dit Sigmund Freud. Après, quand elles sont trop envahissantes et qu'on ne les maîtrise plus, on est dans la psychose. Et là, voilà, on est dans le pathos, on est dans la pathologie. Et c'est la grande différence entre le psychiatre et le psychanalyste. Le psychanalyste va traiter des névroses qui nous constituent. Hein. En revanche, le curseur, quand il est poussé trop loin, là, c'est l'enjeu. Mais je ne pense pas que ça soit... Alors, je parle sous votre contrôle, mais je ne pense pas que ça soit les grands pervers pathologiques qui soient les plus difficiles à identifier et à gérer, parce que ceux-là, vous avez un morphotype, vous avez une grille de lecture, vous avez une grille d'action. C'est ceux qui sont dans les zones grises, en fait. C'est-à-dire monsieur tout le monde qui, d'un seul coup, bascule, et on ne sait pas jusqu'où il peut basculer. Mmh. C'est pas votre expérience.
Après, justement, ça fait partie de ce travail en amont, c'est de déterminer un profil psychologique. C'est-à-dire quelqu'un qui va être en crise, dans son pic de crise, on va pouvoir déterminer de quelle pathologie il souffre, ou en tout cas quel est son trait de personnalité le plus marqué. Donc, typiquement, on négocie pas avec un paranoïaque comme on négocie pas avec quelqu'un qui a un trait de personnalité de nature psychopathique. Donc, il y en a un qui va être sur une relation plutôt donnant-donnant, un peu commercial, charmeur, mais qui va dans des situations compliquées, va mentir, va accabler les autres. Et puis, celui qui va avoir une personnalité plutôt, un trait de personnalité plutôt paranoïaque, on va être sur quelqu'un de très rigide.
Donc vous allez remplir une espèce de vide. Enfin, là, vous allez comprendre sa face, vous allez rentrer dedans, le remplir ça pour avoir. Finalement, c'est ce que vous faites.
Oui, absolument, mais de façon très très concise, je vais vous donner un exemple avec un paranoïaque. Il faut être davantage sur la parole donnée, là, des notions d'honneur. C'est quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai une santé de fer. Là, je fais un parallèle avec le monde de l'entreprise. C'est quelqu'un qui va vous dire, moi depuis que je suis dans la boîte, j'ai jamais été malade. j'ai une santé de fer qui va se référer à la loi, au texte, au droit. Et donc, face à cette, ce genre de trait de personnalité, il faut, là aussi encore, il faut adapter une position haute. Donc, on ne s'inscrit pas comme étant une victime, et il faut être aussi sur des notions de droit, de parole donnée, d'honneur. Et pas du tout avec quelqu'un qui va avoir un trait de personnalité de nature psychopathique, qui va être plutôt quelqu'un qui va être un peu charmeur, plutôt sympathique au quotidien. En revanche, dans les situations un peu compliquées, il va tout de suite mentir, il va vous accabler. Wow. Et donc, pour négocier avec ce genre de personnes, et là aussi je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise, on sera plutôt sur un rapport donnant-donnant. Qu'est-ce que tu peux perdre avec moi? Qu'est-ce que tu peux gagner avec moi?
Waouh. Féfé, dans ma rue, à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Loin du bonheur et des îles où la misère prend ses aises, près du haut loup l'oppressé se console avec des scies. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. Pour la plupart piégés, piégés, piégés. Quand se nourrir est un film et nourrir les tiens ton rôle, la rue te donne quelques scènes tirées de mauvais scénarios. Pour un coup, elle peut te fournir tous les plans possibles. Mais pour demain, qui sait, qui sait, qui sait. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Peu de soleil. Sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Quand on n'a rien d'autre à faire, on la pratique par défaut. Y'a que ceux qui n'ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Plus t'y es, plus tu perds, tu perds, tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Parce qu'elle a tout ce que l'on est, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit long sur ce qui est à venir. Tout pour mieux la quitter, quitter, quitter. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Peu de soleil. Sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir.
Et si on travaillait notre regard pour mieux se défendre dans la rue et dans le monde dangereux qui nous entoure, je plaisante un tout petit peu, Laurent Maury est avec nous. Lui qui vient de publier cet ouvrage, Prenez le pouvoir, une histoire de sa vie au fond. Ex-chef des négociateurs du RAID qu'il est, qu'il fut, toutes les stratégies pour agir comme un négociateur d'élite chez Michel Lafon, pardon. Il nous livre un petit peu les secrets qui ont fait les succès de ces différentes négociations en temps de crise. Richard Escott est avec nous, journaliste sportif au journal L'Équipe, qui lui aussi a fait preuve de perspicacité et de maîtrise de soi pour mener des interviews remarquables, n'est-ce pas, vous et votre ouvrage « Les éthiques, dictionnaire des penseurs » chez Honoré Champion, voilà, puisé aussi dans la philosophie pour mieux se connaître et connaître son agresseur.
Ça va plus loin que ça, le fameux « connais-toi toi-même », on oublie ce qu'il y a derrière. Mm-hmm. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». C'est-à-dire que c'est pas la connaissance de soi, c'est pas simplement pour soi, c'est pour connaître ce qu'il y a de plus élevé autour de soi, et peut-être cette structure, parce que les anciens pensaient qu'il y avait une structure cosmique logique, et donc finalement connaître la logique de la société dans laquelle tu vis. Si on devait la ramener de façon un peu plus triviale à la rue, hein, puisque c'est le sujet de cette émission, c'est juste ça. C'est se dire comment je connais mon environnement, d'abord en me connaissant, c'est-à-dire en dégageant cette bienveillance, cette gentillesse. Et puis, faut pas s'étonner si, quand on est gentil, agréable, sympa, et pour certains lumineux, on peut recevoir un petit peu de lumière en retour. Quoi. C'est aussi, on reçoit ce qu'on donne. Hein. Moi, je crois, c'est comme l'éducation. Hein, on a les enfants qu'on mérite.
En fait, c'est intéressant parce que on entend le mot cohérence dans ce que vous dites, être cohérent même dans les situations basiques du quotidien. Et c'est là où je vous pose la question, Laurent Moyet, à votre avis, on devrait tous prendre un peu aujourd'hui des cours martiaux, rien que pour être plus centré, parce qu'on l'a pas, on a des déficits dans tous les sens, on a peur, vous le dites. On a été éduqué de façon très anxiogène, trop sécurisante, donc insécurisante. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que ce serait une bonne chose qu'on soit tous un peu, dans notre vie, il y a plus de service militaire, qu'on fasse tous un petit peu? Je sais pas, alors, par exemple.
Bon, je vais vous donner mon exemple personnel pour le coup. J'ai fait beaucoup de judo.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, est-ce que ça me garantirait d'être efficace en cas d'agression? Probablement pas. En revanche, ça me donne de l'assurance. Et on en revient sur cette confiance en soi.
Ouais.
C'est-à-dire que le fait de se confronter à l'autre, le fait d'échanger, d'avoir ce contact physique, de suer, d'apprendre des règles, de suivre des codes de bonne conduite, et encore une fois, de se confronter physiquement à l'autre, ça vous donne de la confiance en vous, ça vous donne de l'assurance.
D'accord. Oui, mais c'est marrant, ça. Front. On parle du front. Mm-hmm. Alors qu'on était sur le regard.
Ouais.
Affronter, confronter, ça dit déjà tout. C'est-à-dire qu'on est comme les taureaux, on baisse la tête et c'est à celui qui donnera.
Il va encore me faire son rakia, celui-là.
Le coup le plus fort. Et je pense que le thème de l'émission sur le regard apporte quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on se recule, on n'est pas là dans l'affrontement, la confrontation, se frotter. On est au contraire dans voilà ce que je t'apporte. Je t'apporte ce regard, il est à distance. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et ça garantit peut-être qu'on puisse changer de trottoir ou qu'on puisse passer à côté de celui qu'on pourrait considérer comme un agresseur, non pas avec un sourire ironique, mais avec une espèce de lumière intérieure, en le regardant sans le regarder. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant.
Et comment vous pouvez exercer ça, Richard, vous me faites penser à un exercice peut-être intéressant de, voilà, hop, je sors de ce studio, je m'entraîne dans la rue à essayer de percevoir, tiens, ce regard-là, est-ce qu'il m'est sympathique? Est-ce qu'il serait bon, par exemple, de s'exercer là-dessus pour...
Déjà, il faut savoir, l'idée, c'était, je descends dans la rue, je ne suis pas agressé parce que mon regard transmet quelque chose, c'est la thématique. Je pense qu'avant de transmettre, il faut identifier. C'est-à-dire, qui est dans cette rue? Quelles sont les personnes? Là, tout à l'heure, quand je suis rentré dans le studio, il y avait une personne étrangère qui parlait au micro. Il y avait une autre qui était allongée sur le banc, donc un SDF. Il y avait une dame qui essayait de garer sa voiture. Il y en avait un autre qui appelait son copain. Voilà. Donc, je savais déjà quel était mon environnement. C'est-à-dire que là, je peux fermer les yeux. Je savais quelles étaient les 6-7 personnes qui étaient dans un rayon de 10 mètres autour de moi. Et je pense que c'est ça qui est important. Et à ce moment-là, je peux guider mes pas là où je veux aller. Quand je sens qu'il y a un attroupement, que je vois un attroupement bouger, un peu de façon, pas disparate, mais comment dire, erratique, je n'y vais pas. Après, faut pas se tromper. Si on veut pas être agressé, il faut pas se mettre dans la situation. Si je sors à 3h du matin dans un endroit que je sais être mal famé, je prends mes dispositions, je m'y prépare. Est-ce que j'y vais seul? Est-ce qu'on y va à plusieurs? Est-ce que je contacte des gens qui sont déjà là pour qu'ils m'accompagnent? C'est tout. Et moi qui ai eu la chance de voyager beaucoup dans le monde entier, il y a des endroits où je suis toujours allé accompagné. Ouais. C'est-à-dire jamais tout seul, toujours accompagné.
Vous avez un confrère, Laurent Moyet, qui est venu ici dans cette émission il y a quelques temps, qui disait qu'on avait beaucoup un déficit pour le coup aujourd'hui à percevoir voir son environnement. On avait beaucoup de mal. Aujourd'hui, on ne regarde plus son environnement. C'est assez intéressant, je trouve.
Je pense que... Je ne sais pas à qui vous faites référence, mais en tout cas, je rejoins cette analyse. C'est la perception qu'on a de son environnement. Hors antenne, on a échangé un petit peu. Moi, j'ai cet exemple où, pendant quelques années, j'ai vécu à Londres et je n'avais pas les codes.
Ouais.
Je n'avais pas les codes, c'est-à-dire que je me sentais pour le coup plus en sécurité parce que, encore une fois, mes biais cognitifs, ils prenaient pas le dessus. C'est-à-dire que je n'avais pas les codes sur des personnes
Donc il fallait se méfier.
Et pour lesquelles j'aurais été méfiant dans un contexte parisien ou français. Là, c'est vestimentaire. Je n'avais pas ces codes-là.
Et attention, c'est vachement swing. C'est swing, c'est open. Il y a moins de regards inquisiteurs. On juge moins à Londres. Hein. C'est pour ça que c'est une ville qui est très, très appréciée.
C'est vraiment différent de Paris.
La sécurité, je suis pas sûr que ça...
Non, mais ça aussi, il y a des vrais problèmes de sécurité aussi à Londres. Mais quand vous n'avez pas tous les codes culturels...
Ouais.
Sociologique, c'est quelque chose qui finalement, je me sentais plutôt en sécurité. Et au bout d'un certain temps, où j'ai davantage maîtrisé la langue, où j'ai commencé à échanger, à travailler avec des Britanniques, et puis à connaître un peu mieux l'environnement, j'ai acquis ces codes. Et à la fin de mon expatriation, j'étais davantage sur la défensive, comme je peux l'être parfois dans les transports en commun.
D'accord.
Donc, je me suis acculturé.
Ouais.
Et donc, j'avais perdu cette sorte de naïveté.
Et sur la défensive, c'est-à-dire qu'il faudrait. Vous dites. Alors, il faut être à la fois. C'est subtil. Il faut avoir davantage affiché quelque chose d'assuré, une posture assurée, et en même temps, rester aux aguets, quoi. C'est un petit peu ça le message.
Faut faire preuve de vigilance. C'est-à-dire qu'il faut connaître son environnement.
Les écouteurs, Les écouteurs, on oublie.
Ouais, il faut pas donner le bâton pour se faire battre, tout simplement.
Exactement.
Donc, ne pas aller dans les endroits qu'on sait criminogènes, en tout cas les éviter, prendre ses dispositions, sortir à des heures qui sont... On parlait de peur ou on peut parler de prise de risque. C'est-à-dire qu'il faut être en conscience, savoir ce qu'on fait.
Avoir ses sens en éveil, on en parlait. Hein. Tous ses sens en éveil.
Les casques, ça nous empêche dans la rue. Hein. On voit toutes ces personnes qui...
Ça referme tout.
Ouais.
L'environnement. Dans mon métier... on parlait de Londres, je me souviens. Il y avait un test qui avait été passé, on montrait un film. Et après, on posait des questions. Donc, quelle couleur était le pull de la personne derrière là? Quelle couleur était la voiture? De quelle marque? Combien y avait-il de personnes dans la rue? Et je me souviens, moi, avoir tout rempli. Tout rempli, tout juste, parce que de par mon métier, quand j'arrive dans un endroit, je le photographie, et parce qu'après, il faut que je puisse le restituer, peut-être dans un article, le reportage en contexte. Alors, on peut pas toujours revenir à l'endroit où on était, donc je photographie tout, et y compris dans la rue, en permanence, je photographie combien il y a de personnes qui y sont, comment ils bougent, etc., pour peut-être me dire un jour, si j'ai l'occasion, dans un roman ou dans un article, de raconter de 3-4 traits de plume comment c'était, où est-ce que c'était, mais même des choses que j'ai vécues il y a 20, 25, 30 ans. C'est gravé, c'est enregistré, c'est dans ma banque de données personnelle.
Il y a énormément, plein d'anecdotes dans ce livre, Laurent Maury. On entre vraiment dans les capacités de négociation. Hein. Et c'est vrai que l'aspect vestimentaire, évidemment, compte beaucoup. Compte un peu.
Dans la négociation.
Je fais un parallèle, négociation ou le fait.
Je vois ce à quoi vous faites référence. j'ai eu la chance et le bonheur de travailler pendant 4 années à Scotland Yard. On est finalement assez peu de Français à avoir cette chance.
Donc pendant... Mais pas un roman, c'est la réalité.
Donc pendant 4 ans, j'étais un policier français de Scotland Yard.
Waouh!
Évidemment, je m'adapte parce que ça faisait partie de mon mandat, de ma mission, que de m'adapter pour être en mesure de fournir des informations, de remonter des informations aux autorités françaises. Et au bout de 4 ans, je me sens profondément français, je suis très français, et je suis très bien. Je suis tellement bien que j'envisage de solliciter une 5e année, ce qui est plutôt exceptionnel. Mais bon, ça s'inscrivait dans l'arrivée des JO à Londres. Donc, je me dis, je vais obtenir cette 5e année, puisque tout se passe bien, etc. Et Je pars travailler le matin, début d'après-midi, je prends l'Eurostar et j'arrive à Paris. Et je vais voir mon chef de l'époque, donc qui est le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, et avec qui je m'entendais très très bien. Et je lui dis, bah voilà, moi je viens vous voir parce que je pense que je fais le job. Et voilà, ça annonce les JO, j'ai tous les contacts. Donc je viens solliciter une cinquième année. Je pensais que c'était une formalité. Et là, il me regarde et je sens que ça ne va pas bien se passer. Et il me dit... Il est temps pour vous de rentrer. Et je ne comprends pas. Et j'essaye, alors je tente un oui, mais. Et là, il m'interrompt, il dit, il est temps de rentrer. 4 ans, c'est 4 ans. Et quelques années plus tard, j'ai l'occasion de le revoir. C'est quelqu'un avec, je le dis, parce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai de très bonnes relations. Je lui dis, mais finalement, j'étais bien, tout se passait bien. Et il me dit, non, vous commenciez à être trop proche d'eux. Et pourquoi j'étais trop proche d'eux, on reparle de nouveau des biais cognitifs, parce que ce jour-là, j'étais habillé comme un Anglais, c'est-à-dire que j'avais un costume à rayures comme les collègues avec qui je travaillais, j'avais fini par mettre des chaussettes rouges à l'anglaise, et en fait, il m'a pas vu comme un officier de liaison, il m'a vu comme un Anglais.
Et ça posait... Ça vous fait perdre en crédibilité.
Ça me faisait gagner de la crédibilité auprès de mes homologues britanniques, puisque je finissais par être un peu comme eux. Mais cette crédibilité, je l'ai perdue face à mon chef, qui pour le coup avait un Britannique.
C'est l'histoire du pont. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être d'un côté de la berge, vous construisez un pont, mais il faut faire demi-tour, alors que vous êtes installé sur l'autre berge. Et en s'installant sur l'autre berge, vous devenez un autre. Alors que votre rôle à vous, c'est d'être un pont, en fait. Voilà. Et je pense que c'est notre rôle à tous.
C'est subtil, les amis.
Et vous êtes un pont aussi, puisque vous en avez créé entre Laurent et moi, et entre nous et les auditeurs.
J'espère, en tout cas.
C'est ce qui s'appelle pontifier.
je vous remercie.
Mais non.
Pontifier au sens noble, alors.
Au sens noble, de relier.
On pourrait revenir une
relier,
cinquième
qui
fois.
Qui est la racine de
la racine de religion, religiaire. Richard Escott, merci beaucoup. Vous voyez votre dictionnaire, Dépenseur, aux éditions Honoré Champion. Laurent Maury, merci infiniment d'être venu pour nous livrer ces quelques secrets. Prenez le pouvoir, toutes les stratégies pour agir comme un négociateur d'élite chez Michel Lafon. Merci les amis et soyez sereins en descendant dans la rue, les deux pieds ancrés dans le sol. Moi j'ai compris. Bonne soirée à tous.
Merci.